Vendredi 27 décembre 1968, le dernier jour. Il va être 16h. Il y a de nouveaux embouteillages sur les routes et dans les gares. C'est un nouveau week-end qui commence pour les terriens. 16h31, le grand moment est arrivé. Apollo 8 se sépare de son moteur et seul, comme un obus incandescent, la cabine Apollo 8 va franchir la dernière passe, les couches denses de l'atmosphère qui carapassonnent la Terre. Dans cette chute vertigineuse, sans liaison avec la Terre, la température va monter à 3000 degrés à l'étrave d'Apollo 8. Et dans la cabine, les trois cosmonautes vont subir pendant trois éternelles minutes, une pression de 1000 kilos. Et ils vont vivre dans une étuve de 65 degrés.
Ça y est, maintenant le blackout a commencé. Attaquer les couches denses de l'atmosphère.
Il est 16h37.
Donc, ils ont passé donc l'altitude de 100 km. Ils sont à une vitesse supérieure à 40 000 km/h. Et maintenant, pendant 3 minutes, 3 secondes, nous allons être sans communication avec eux, puisqu'en effet, dans ce grand bombardement qu'ils vont connaître, il leur est impossible de parler, de faire une menace quelconque. Ils sont trop attentifs à leur vie, à se tenir, à regarder aussi et à mesurer de quelle façon la capsule se comporte. La descente se poursuit, elle se poursuit, semble-t-il, normalement.
Depuis 2 minutes.
On ne sait rien, puisque naturellement, c'est le blackout. Puis, aucun bruit ne nous vient de là-bas. La seule précision qu'ils nous donnent ici, c'est une précision concernant la chaleur. Elle serait extraordinaire, puisqu'elle dépasserait 5000 degrés Fahrenheit.
7300 mètres d'altitude, la liaison radio est rétablie. Les deux parachutes auxiliaires se déploient.
Un premier signal. Voilà, un premier signal, c'est fait. Donc, ils sont en vie.
16h42.
Ils sont en vie. Level vient d'envoyer un premier signal. C'est la base de Huntsville qui a capté le premier message. Le premier signal, car ce n'est pas un message, c'est seulement un signal. C'est donc la remise en marche de la radio. Jim Lovell, ça y est, Jim Lovell a parlé. Jim Lovell a dit tout simplement, ça va bien. Et oui, ça va bien. Ils sont sauvés. L'attente est terminée maintenant. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils se posent le plus près possible du porte-avions afin qu'on puisse les récupérer rapidement. Et Lovell vient de prononcer ces mots. Real fine, c'est-à-dire c'est merveilleux. Et les radars ont déjà capté Apollo 8. Les deux petits parachutes de stabilisation sont ouverts. Et maintenant, les trois parachutes, les trois derniers parachutes, les parachutes de freinage viennent d'être ouverts. Ils sont à 3300 mètres. Ça y est, ils ont amerri, c'est fait.
Ils ont amerri, il est 16h52.
C'est fait. La capsule est tombée dans le Pacifique. Elle est tombée dans le Pacifique, mais où? Maintenant, c'est le problème. Il faut savoir où. Normalement, il était prévu, d'après les calculs, qu'elle tombait à 2300 km au sud-ouest d'Hawaï, à 165 degrés de latitude ouest et 8 degrés 8 minutes nord, à 950 km de Christmas Island, l'île de Noël. L'hélicoptère est en route. Dans cet hélicoptère prennent place trois hommes grenouilles. Ce sont les hommes qui vont plonger près de la capsule afin de l'entourer des flotteurs. Ils portent une tenue de James Bond. Ce sont des hommes grenouilles qui, par-dessus leur combinaison noire de caoutchouc, ont passé une combinaison blanche inifugée.
Il est 16h54. La cabine a touché l'eau maintenant il y a 2 minutes.
Et localisés, ils sont à 4000 nautiques du porte-avions, c'est-à-dire qu'ils sont à moins de 7 km. Borman parle maintenant. Borman vient de parler. Équipage, ok, a-t-il dit. Enfin, nous voilà.
À bord du Yorktown, un vieux porte-avions rescapé de Guadalcanal qui ira ensuite à la casse, à bord du Yorktown qui file vers Hawaï, Borman, Lovell et Anders ont juste le temps de découper un gros gâteau de Noël, une montagne de 250 kilos de glace et de crème fraîche. Ils posent pour l'équipage, et puis pendant de longs jours, ils devront se soumettre à l'interrogatoire des médecins de la NASA avant de pouvoir retrouver leur famille. La feria du cosmos est terminée, mais déjà les techniciens de la NASA préparent Apollo 9, et puis ensuite Apollo 10. Dans un motel de Cap Kennedy, un homme découpe seul un steak typiquement américain. Ses cheveux sont blancs, ses yeux sont très clairs, il a l'accent de la Rhénanie, c'est Herbert von Braun, le père des fusées américaines, et aussi pendant la guerre, l'inventeur des V2 et des V1 qui ont ravagé Londres. Aujourd'hui, von Braun savoure, solitaire, son jour de gloire.
Monsieur le monde, c'était aujourd'hui votre grand jour. Il y a des années que vous attendez ce départ de cette fusée pour la Lune.
Alors, je suis très heureux, naturellement.
Dans vos calculs, vous êtes trompé seulement de 65 millièmes de seconde.
Il y a 36 secondes.
Monsieur Van Braun, quand pensez-vous qu'un homme mettra les pieds sur la Lune?
Oui, hier, ou juillet 1969.
Voilà, c'est tout simple, c'est Apollo 10, c'est-à-dire un homme marchant sur la Lune pour le temps des cerises. Ce sera en principe pour l'été 1969, peut-être même avant, au mois de mai, car les astronautes sont friands des printemps précoces, surtout les Américains. D'autant plus impatients d'arriver les premiers sur la Lune qu'avant ce printemps de 1969, les Russes veulent eux aussi moissonner leur champ d'étoiles.